Mais lorsque nous parlons politique, on oublie d'autres aspects de la vie. Et souvent, les membres de l'opposition rappellent l'insécurité, rappellent le mauvais état des routes, rappellent tous les problèmes. C'est ainsi que nous avons invité dans ce studio Maître Landry Aksanti Kanyuri, lui qui se met de côté, hein, il ne fait pas la politique, mais il s'intéresse beaucoup plus à la vie au quotidien de la population en publiant un livre intitulé Processus du budget participatif ici dans la province du Sud-Kivu. Vous allez vous rappeler que au Sud-Kivu, à l'époque, il y avait des forums de communes, des forums de quartiers où on élaborait des projets prioritaires pour dire on va réhabiliter un pont, on va réhabiliter un centre de santé, on va réhabiliter un marché. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons politique, c'est tout le monde qui est intéressé, oubliant qu'il y a d'autres aspects de la vie au quotidien qui intéressent. C'est ainsi que Maître Landry Aksanti Kanyuri, lui, a mis l'accent sur le processus du budget participatif en se mettant de côté de la politique. Qu'est-ce que vous avez fait comme constat par rapport à cette pratique?
Merci beaucoup de la parole m'accorder. En fait, l'intitulé de mon livre, c'est Processus du budget participatif au Sud Kivu, entre pratiques démocratiques et slogans idéologiques. En fait, nous sommes défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels et nous intéressons beaucoup à la gouvernance locale. C'est pourquoi, dans notre livre, nous avons posé trois problématiques. À savoir, est-ce que la province du Sud-Kivu remplissait les conditions pour conduire un budget participatif? Et là, nous avons posé une deuxième question, celle de savoir les forces et les faiblesses du processus depuis 2010, lorsque la Banque mondiale l'avait initié au Sud-Kivu, jusqu'en 2016. Les forces et les faiblesses de ce processus-là. En troisième lieu, nous avons parlé des réformes nécessaires. Quelles sont les réformes nécessaires pour que le processus puisse aboutir? Et donc, les constats que nous avons faits est qu'il y a un constat positif. Le premier constat plutôt positif, c'est que il y a eu quand même participation de la population à l'identification de priorités. Ça, c'est surtout en 2011 et la suite. Mais je pourrais le dire après, cette participation était vraiment limitée. Comme point positif aussi, il y a eu le renforcement des capacités des acteurs étatiques via le PERCG. Ça, c'est un aspect aussi important. On a vu les acteurs étatiques être appelés souvent à Bukavu et bénéficier de l'accompagnement de la Banque mondiale. Aussi, un point positif, c'est qu'il y a eu des réalisations des investissements. Okay? On peut voir dans la chefferie de Kabare, Luhindja, Kaziba, Rubenga et même dans les communes de Kadutu et Ibanda. Il y a eu quand même certains investissements qui ont été réalisés, même si on peut en quelque sorte se poser la question sur la qualité et autres. Mais quand même, il y a eu des investissements qui ont été organisés. Mais alors, nous avons noté plusieurs faiblesses, une panoplie de faiblesses vraiment. Sur le plan légal, par exemple, nous avons trouvé que il n'y a pas eu une loi qui parle du budget participatif. Il n'y a pas eu un édit. Un édit a été initié, mais n'a pas été promulgué, n'a pas été voté. Ça, c'est un aspect très, très important. Sur le plan de la participation aussi, on a vu que la participation de la population s'est limitée au niveau de l'identification des priorités. Et là, c'était au fait à cause, je dirais, des acteurs étatiques. Au niveau local, les animateurs des ETD qui ne parvenaient pas à faire participer la population aussi au suivi de l'exécution du budget jusqu'à l'évaluation. Ça, c'était un aspect négatif où on s'est arrêté au niveau de l'identification des priorités. Un autre élément est qu'il y a eu participation insignifiante de la femme parce que j'ai noté 7% seulement sur toute l'étendue. Pour la participation de la femme, comprenez que c'était un problème. Ok, à ce niveau là-bas, compte tenu de cette faible participation de la population en général, de la femme en particulier, on a vu que l'élément important ou la cause principale, c'était le non-respect du calendrier du budget participatif. Alors qu'ailleurs, la préparation prend toute une année, à commencer de janvier, et ceux qui sont en retard commencent en mars. On trouve qu'au niveau du site Kivu, la préparation du budget participatif commençait vers août, même septembre. Ça, c'était une grande faiblesse. justice aussi. Aussi, le problème de mécanisme de mobilisation populaire. Il y a une faible mobilisation populaire parce que, bon, ici, chez nous, on a trouvé que dans les ETD, on recourait toujours aux mécanismes traditionnels tels que les invitations, les communiqués à la radio. Et les SMS a été utilisé seulement en 2011. C'était dans la commune de Kadutu pour voter. Dans deux autres communes, on l'avait utilisé pour informer. Mais pourquoi on n'a pas continué avec cet aspect-là? C'était en fait un problème. Sur le plan des investissements, okay, il y a eu une grande faiblesse où on a fait des budgets réputés participatifs sans plan de développement local. Ça, c'était très important. À ce moment-là, en 2011, il n'y avait que Luhinja Urinye Ngweshe qui avait le plan de développement local et qui seront suivis par Kabare, Kaziba et Rubenga. Mais voyez, si ETD seulement sur le 27, qui avait des plans de développement local. Ça, c'est très important. Et donc, on va trouver aussi que sur le plan d'impact sur la gestion des taxes et impôts, il n'y a pas eu vraiment un impact sensible parce que même en 2016, vous allez vous rappeler que le président de l'Assemblée provinciale avait dit que voilà, on a dénombré environ 200 taxes illégales, okay, qui sont pratiquées dans les entités d'État décentralisées. Comprenez qu'à ce niveau-là, il y a aussi encore beaucoup à faire.
Voilà.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup à dire, mais je voudrais aussi parler de la retenue à la source qui n'a pas été opérée au niveau de la province depuis qu'on a commencé. Donc ça, c'est la faute au gouvernement central. Il y a les taxes d'intérêt commun qui n'était toujours pas rétrocédé aux entités décentralisées. Okay? Depuis le début du processus jusqu'en 2016, l'analyse que j'ai faite, les taxes d'intérêt communs n'étaient pas rétrocédées au niveau des entités décentralisées. Ça, c'était une grande faiblesse. J'ai noté la plus grande faiblesse aussi, c'était les contrôles par la province. Le contrôle public n'a pas été bien exercé sur les entités décentralisées. On attendait alors que le contrôle citoyen fasse la part des choses. Un contrôle citoyen aussi qui était en quelque sorte empêché par les autorités locales elles-mêmes parce qu'on a trouvé que la participation était au niveau de l'identification, mais alors quand au suivi et jusqu'à l'évaluation, on n'impliquait plus la population. Le contrôle citoyen n'a pas été efficace parce que d'un côté, il était empêché par les animateurs ZTD. De l'autre, la société civile ne s'est pas constituée en synergie pour arriver à capitaliser certains acquis du budget participatif. Voilà. Ça, c'est important. Donc, il y a beaucoup de choses à dire.
Merci,
on ne peut pas en parler maintenant globalement.
Merci, Maître Landry Aksanti Kanyuri.